Écoutez, non. Vous n'avez rien à craindre.
Non.
Si, si vous y mettez du vôtre, tout se passera très bien. Oh là, vous allez poser
qu'est-ce
ça.
Qu'est-ce que
hein?
vous voulez?
Écoutez, non, vraiment, c'est inutile de faire ça. Vous allez poser ce couteau, d'accord?
Bonjour.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'émission hebdomadaire de cinéma. Cinérama, émission du 8 décembre. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, bonjour tout le monde.
Et on va dire tout de suite bonjour à nos invités Adrien et Arnaud.
Bonjour. Bonjour.
Adrien qui nous proposera de parler de l'absurde séance qui se déroulera demain à l'Utopia, donc à 20h30, une soirée spéciale. Et puis il est venu avec le directeur de l'Utopia, on est ravis de le recevoir.
Moi, je suis ravi d'accompagner Adrien.
Parfait.
Voilà. Moi aussi, je suis ravi.
Alors, au sommaire de cette émission, donc il y a cette partie événement, mais il y a aussi les sorties habituelles, le train-train, quoi. Martin.
Oui, ben moi, alors je pourrais pas vous parler beaucoup de l'absurde séance, mais j'irai demain, je serai là-bas. Par contre, je vais vous parler d'un film qui est sorti mercredi dernier, le nouveau film de Robert Rodriguez, Machete, que je suis allé voir.
Et moi, je parlerai d'À bout portant, de Fred Cavaillé, film policier français, bien français. Et puis de Monster, un film complètement fauché de science-fiction, avec peu de monstres, mais quand même un peu. Et on terminera avec une interview de Pierre Salvadori. Pierre Salvadori qui était venu à Montpellier pour le Festival du cinéma méditerranéen, présenter De vrais mensonges qui sort aujourd'hui. Une comédie plutôt réussie, mais ça, ce sera en fin d'émission. Mais tout de suite, c'est l'événement Massacre à la tronçonneuse.
Le film que vous allez voir raconte la tragédie vécue par un groupe de 5 jeunes, en particulier par Sally Hardesty et par Frankie, son jeune frère handicapé. Cette affaire est d'autant plus tragique qu'ils étaient jeunes. Mais même s'ils avaient vécu très longtemps, jamais ils ne se seraient attendus ni n'auraient souhaité assister à une débauche de folie aussi macabre. Leur balade entre amis par cet idyllique après-midi d'été se transforma en cauchemar. Les événements de cette journée devaient mener à la découverte de l'un des crimes les plus bizarres des annales de l'histoire des États-Unis, connu sous le nom de Massacre à la tronçonneuse.
Alors ça, c'est l'intro du film. On ne dévoile pas grand-chose, hein, parce que le spectateur, dès qu'il va rentrer dans la salle, c'est ce qu'il va entendre.
Il n'y a pas un suspense énorme.
C'est vrai. Ils préviennent tout de suite que ça va être un gros massacre.
Ouais.
Alors, pourquoi avoir choisi Massacre à la tronçonneuse pour inaugurer cette absurde séance?
Alors, beaucoup de raisons, enfin plusieurs raisons en tout cas. Parce que pour démarrer un projet comme ça, on avait besoin d'un film un peu emblématique qui aurait marqué une génération et enfin toutes les générations puisqu'il est encore il est culte quoi. Donc voilà, il nous a semblé que en tant que film le plus connu du monde comme nous l'écrivons dans la Gazette, donc c'est peut-être le film le plus connu du monde, mais qui l'a vu en 2010 en salle, en pellicule, en voilà.
Mais surtout
même à sa sortie en fait,
voilà.
Il était particulièrement intéressant parce que c'est un film dont tout le monde connaît le titre, absolument tout le monde, et que statistiquement très très peu de gens ont vu. C'est peut-être pour ce film-là qu'on a dû inventer un jour l'expression film culte, c'est cette espèce d'objet improbable dont la notoriété dépasse largement la connaissance, donc ça c'était un premier point important. Et je pense aussi que c'est une variété, enfin c'est un moment dans le cinéma américain qui est assez particulier, où il y a une nouvelle génération de cinéastes qui ont commencé à éclore. Alors après ils ont eu des carrières diverses,
commercial.
Je suis pas sûr que Toby Hooper ce soit forcément le cinéaste le plus excitant qui en soignait. Mais en tout cas, lui, il était à l'origine de ce truc-là. Il a, avec ce, ce film, cet objet, ce truc, voilà, et dont il reste, c'est incroyable, une copie 35 mm disponible en France pour organiser des projections. Et rien que de savoir ça, ça nous a tout de suite, on s'est dit, voilà, on démarre avec celui-là, voilà. Tout de suite.
Alors, film de Tobe Hooper, hein, donc de 1974, Texas Chainsaw Massacre, d'ailleurs, on va le préciser parce que ce sera en version originale sous-titrée demain.
Ah non. Il sera en version française.
Ah zut.
Alors,
ça m'a prendre. Non, mais j'ai qu'à faire
il
des
sera
fiches.
En version française.
Mais ça, c'est les journalistes qui vérifient pas leurs sources.
Ça me paraît clair. Alors, par contre, il y a une histoire intéressante. Je crois que ça aussi, c'est dans la Gazette. C'est l'histoire de la censure. On ne sait jamais ce qui se cache dans la tête d'un censeur, mais bon, voilà, la censure existait en 1974. Et donc, le monsieur de cette sous-commission de censure dit « Histoire à faire dresser les cheveux sur la tête, terrifiante et sanglante, portée à la limite de la cruauté, atteignant l'insoutenable par une progression étudiée de la sauvagerie de scène en scène, aventure presque inracontable, tant elle fourmille d'événements atroces, de scènes révoltantes ou particulièrement ignobles. » Donc, c'était Alain Barbarich qui, à la suite de ce visionnage de Massacre à la tronçonneuse, va demander à la commission de contrôle des films d'interdire tout simplement le film après une semaine d'exploitation en 1974.
Et va y arriver.
Non, mais c'était nécessaire. Hein.
et ce qui est parfaitement étonnant, c'est que l'interdiction va être levée en 1982. Mmh. Alors ça, c'est pour le cas de la France, mais je crois que voilà, c'est au Royaume-Uni. Le film ne sortira qu'en 99, donc un peu avant les années 2000, alors qu'il est sorti en 74. C'est quand même étonnant, ça.
Non, mais les Anglais, ils sont très très forts. Ils ont fait pareil avec Orange Mécanique. C'est pas...
C'est vrai.
Voilà, oui, mais après, je pense que dans tous les pays... Ce qui est fascinant avec les commissions de censure, c'est que finalement, les choses sont toujours beaucoup plus sales dans la tête des gens qui font les classifications et qui posent les interdictions. C'est toujours beaucoup plus sale que les œuvres qui sont elles-mêmes frappées de ces interdictions. Si on regarde aujourd'hui Massacre à la tronçonneuse, on va pas ricaner tout le temps parce que quand même ça laisse de temps en temps un petit peu mal à l'aise, mais c'est pas non plus le truc immontrable, inregardable, annoncé. On en aurait autant pour Orange Mécanique, là, dont je parlais tout de suite, ça c'est pour l'exemple anglais. Mais dans le cas du cinéma français, il y a un nombre important de films. La religieuse de Jacques Rivette a été interdite pendant très 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 longtemps au cinéma. La religieuse de Rivette, c'est un très très beau film. C'est pour d'autres raisons, hein, on est d'accord.
Mais
il n'empêche que c'est un effet de la commission de censure.
C'est pour les mêmes raisons.
Tant que la commission de censure n'a pas levé une décision qui a été prise par la commission de censure, le film, il est réputé immontrable.
Voilà. Je pense quand même que c'est pour les mêmes raisons, puisque quand même, à travers ces histoires de censure, on sent le poids de l'Église catholique en France jusqu'en 82. Il me semble que si. Mmh. Je reste persuadé que dans tous les témoignages qu'on peut lire, et notamment les résumés des commissions, il me semble quand même qu'il y a un avis très... un regard très...
En tout cas, là, c'est très moral. Hein,
oui, voilà, très moraliste, moralisateur.
On suppose que vous ne pouvez pas regarder ça.
Voilà.
Non, mais voilà, la commission de censure, elle est censée protéger les jeunes spectateurs, les familles et la...
Les bonnes mœurs.
Éveiller, bah oui, est-ce que les bonnes mœurs, est-ce que ce soit pas susceptible de bousculer l'ordre établi? Voilà, la censure est tout à fait dans son rôle, en mettant en garde. D'ailleurs, demain soir à Utopia, je mets en garde, ne venez pas avec vos enfants. Enfin, c'est pas... C'est pas raisonnable.
Alors, interdiction...
Vous pourriez nous les traumatiser. Non, mais pas en dessous de 5-6 ans, en tout cas.
C'est, oui, voilà.
C'est franchement déconseillé.
Alors, est-ce qu'il y a une interdiction maintenant? Est-ce que c'est moins de 16 ans, moins de 18?
Alors, maintenant, c'est 16. Ouais.
C'est 16,
voilà. Et alors, quand il est sorti en 82...
C'était classé X.
Il était classé X, incitation à la violence. Et donc, il a été revu par la suite, puisque le film est devenu quand même le film le plus connu du monde. Donc, ils se sont dit que quand même, il faudrait le montrer. Et donc, il est passé à moins de 16, puis après en DVD, bon...
Puis surtout, ils se sont aperçus que l'incitation à la violence, de fait, on avait beau mettre des tronçonneuses à la sortie des salles, personne ne se jetait sur les tronçonneuses pour flinguer les gens autour d'eux.
Alors, on va écouter une violence, mais là, qui est un peu symbolique. Alors, on raconte vite fait l'histoire. Hein. Ce sont des jeunes qui sont dans un van. Ils retournent au Texas parce qu'il y a eu une profanation de tombe. Il y avait le grand-père de deux des personnages frères et sœurs qui étaient enterrés dans ce cimetière. Ils cherchent à savoir si la tombe a été profanée. Enfin voilà, ils vont là-bas en guise de mémoire. Et on est donc dans ce van, on écoute ce que dit un des personnages.
C'est quoi cette odeur?
Oh, ça pue.
Remontez les vitres. Oh, allez, dépêchez-vous.
Regardez, on approche des anciens abattoirs. Et c'est là où grand-père venait vendre ses vaches. On a un oncle qui travaillait dans un abattoir du côté de Fort Worth. Vous voyez le bâtiment là-bas? C'est là où on les abat. Et paf, on les frappe sur la tête avec une grosse masse.
Oh, c'est horrible.
Et ils les tuent rarement du premier coup. Elle se foutait à gueuler, et il fallait qu'il s'y reprenne à plusieurs fois pour qu'elle crève. Et parfois, elle mourait pas, et il commençait à les dépecer alors qu'elles étaient encore vivantes.
Oh, c'est dégueulasse.
Ouais.
On devrait pas tuer les animaux pour les manger.
Et ils font plus comme ça, maintenant. Ils ont des pistolets à air comprimé, et ils envoient une pointe jusqu'au cerveau, et ils la retirent. Ça fait boum, schlac, boum, schlac.
Francky, arrête. Change de sujet, j'adore la viande, moi, schlac, ok boum, oui, mais quand même, schlac. C'est terrible quand on est réfléchi, non?
Oh merde, qu'est-ce qu'il fait chaud là-dedans?
Regardez, un autostoppeur.
On le prend ou pas?
Oui, oui, arrête-toi, il tiendra pas une heure avec cette chaleur.
De quoi est-ce qu'il a l'air?
Je parie qu'il pue l'abattoir et qu'il sent la charogne.
Arrête-toi, on va le prendre, il aura qu'à s'asseoir à côté de Francky.
Bon, alors qu'est-ce qu'on fait?
Oh, il a l'air bizarre, regardez, oh non!
Alors, il y a déjà pas mal de choses hein, ici. Une espèce de petit dialogue comme ça, un peu léger. Puis en même temps, on parle de la bidoche et l'autostoppeur, quand même. Alors là, j'ai rien révélé. Hein. J'ai coupé au bon moment. Hein.
Oui.
Voilà. Enfin, c'est un peu ça, Massacre à la tronçonneuse. C'est un peu de légèreté, puis au bout d'un moment, ça bascule.
Oui. Alors, à noter juste par rapport à la VF
Qu'on
entend ici, c'est celle donc qui est tirée de la nouvelle sortie du film en vidéo, en DVD. Celle qu'on aura demain soir donc en salle sera la version d'époque. Mmh. Que je n'ai pas entendue encore puisqu'elle est inédite en vidéo. Donc, je crois que c'était celle de la VHS René Château.
Voilà, oui. Mmh.
Mais je suis pas sûr. Et alors, faut aussi dire que la VHS René Château était sortie avant le film en salle.
Donc c'était un bon coup pour eux.
C'était un très bon coup. René Château avait senti le truc. Il était sur le coup dès le début. Mais voilà.
Alors, on est là dans une espèce de classique du genre. Hein. Y a des jeunes. Alors, les jeunes filles, d'ailleurs, sont en tenue plutôt légère. Hein. On voit les cuisses, on voit les dos nus. Enfin, y a tout ça. Et puis, donc, il y a cet autostoppeur. Voilà. Est-ce qu'ils auraient dû monter cet autostoppeur, Adrien?
Bah oui, sinon, il n'y aurait pas eu le film. On se serait bien emmerdé, quoi. Oui, ils ont bien fait. Alors, je ne sais pas si on doit parler de l'autostoppeur.
C'est assez fascinant quand même comment, à partir de Massacre à la tronçonneuse, systématiquement que dans un film, tu as des groupes de jeunes, dont des filles légèrement vêtues, qui partent dans des coins un peu reculés, un peu improbables.
Le Texas, hein.
Ils ne peuvent pas s'empêcher de prendre des autostoppeurs. Quoi. Mmh. C'est vraiment c'est hallucinant. Ils savent ce qui va se passer. Ou ils rencontrent des autostoppeurs, ou ils rentrent dans des maisons dans lesquelles ils ne devraient pas rentrer. Mais c'est un peu... Mais c'est Massacre à la tronçonneuse au départ.
Mmh. Et donc ça a été repris. C'est pour ça que c'est aussi un film culte.
Ouais, tout à fait.
Voilà.
C'est lui qui a créé le motif. Voilà. Et après.
Alors maintenant,
c'est devenu un grand n'importe quoi jusqu'au remake totalement inutile de Massacre à la tronçonneuse.
Oui, ils en ont fait plusieurs après. Hein.
Mais il y a eu les suites. Les suites, c'est savoureux quand même. Et ça se visite. Ça se programme pas, mais ça se visite.
Oui, d'ailleurs, l'acteur Gunnar Hansen, l'acteur norvégien, je crois, qui joue Leatherface, le tueur de Massacre à la tronçonneuse, a fait même une version érotique du film. Alors, je dirais en 86, 87, 88 peut-être, que j'ai pas vu.
En hein, Norvège
je...
ou
Non, aux États-Unis, je pense. Je l'ai pas vu, hein, mais je sais qu'il a fait une version érotique.
Voilà. Ouais,
Faudrait qu'on le trouve. Ouais.
Alors, ingrédient de Massacre à la tronçonneuse. Donc, il y a cet autostoppeur hein, dont on n'a rien dévoilé pour l'instant. Et puis, on est aussi dans le Texas, donc coin paumé, grands espaces, et puis cimetière profané, enfin des maisons abandonnées, et puis une pompe à essence où il n'y a plus d'essence.
Qu'est-ce qu'il vous faut?
Le plein, s'il vous plaît.
J'ai plus d'essence.
Bah, comment ça, plus d'essence?
Et mes cuves sont vides. Je ne serai certainement pas livré avant ce soir. Peut-être même demain matin.
On aurait dû s'arrêter avant.
Et vous savez où se trouve la vieille maison des Franklin?
La vieille maison des
Franklin? Oui, c'est une maison à deux étages. Elle se trouve en haut d'une petite colline. Et je crois qu'il faut prendre cette route-là, mais je suis pas sûr.
Ouais. Peut-être bien qu'il y a une maison qui ressemble à ce que vous dites. Mais attendez, vous n'avez pas l'intention de monter là-haut et de visiter cette baraque? C'est une ruine, ça pourrait être dangereux.
On fera attention.
Dites, vous avez pas l'intention d'aller traîner dans une propriété privée? Les habitants d'ici n'aiment pas beaucoup ça.
Mon père est né ici.
Allons, cette maison est à lui.
Ouais?
J'ai une proposition à vous faire. Je suis en train de faire un barbecue dans mon jardin. Pourquoi vous ne mangeriez pas avec moi? Vous pourriez attendre l'essence ici, ça vous dit?
Vous avez faim?
Je suis prêt à parier que vos copines, elles veulent pas y aller. Les filles, elles se foutent pas mal des vieilles baraques. Allez, restez plutôt avec moi.
Voilà, quel accueil hein, au Texas, quand même. Oui.
Alors oui, d'ailleurs, le Texas, c'est quand même un truc qui est cher à Toby Hooper, parce que au moins dans ses deux premiers films, il pose un cadre texan assez... avec des traces, des contours assez gras. Eaten Alive, donc son film suivant, qui fait 2 ans après, je sais plus s'il est sorti en France, Le Crocodile de la Mort, il est sorti en vidéo, je crois qu'il est sorti en salle. C'est pareil, il pose un cadre dans le Texas profond, avec des mecs un peu hallucinés, dans des conditions... Voilà, il y a un cadre qui est propre au film de Toby Hooper, en tout cas au début.
Alors, c'est fait dans un climat un peu particulier. Hein. Il a choisi le Texas dans une ambiance américaine de l'époque où finalement il y avait un questionnement sur les libertés.
Oui, voilà. Je pensais, on va pas non plus parler d'un grand film politique. Non, faut peut-être pas exagérer. Mais en même temps, c'est, avec un tout petit peu de recul et quand même depuis 1974, on commence à en avoir un peu. Il s'inscrit aussi dans une période, à un moment où le cinéma américain aller chercher. Ça préfigure un petit peu les méfaits du réganisme, d'une certaine façon. C'est ce côté désertification, population totalement ou quasi totalement acculturée. Enfin, on retrouve un petit peu les mêmes traits aussi dans un film. Alors, qui de mon point de vue est peut-être infiniment supérieur qualitativement, c'est Délivrance de Borman, et qui reprend des thématiques relativement proches finalement. Mais Borman a fait moins de petits, a fait moins de bébés que Massacre à la tronçonneuse. Voilà.
Alors, Borman d'ailleurs, qui avait été diffusé à la télévision avec le carré blanc. C'était à l'époque du carré blanc.
Ça alors ?
Oui, Délivrance. Enfin, ouais, c'est souvenir possible, très,
oui,
très
bah voilà, c'est toujours très sale ce qui se passe dans la tête
carré des blanc, sens. Carré blanc, c'est 16 ans.
Je sais pas connu parce que
de toute façon, on n'interdit pas à la télé, mais c'est attention, ce que vous allez voir, ça fait très très mal et très très peur.
Voilà, Délivrance.
C'est pas étonnant.
Ouais, absolument. Pas. Bah, pour une scène particulièrement. Hein, ouais. Voilà. Qu'on ne racontera pas ici. Voilà. Donc, on va en terminer avec les extraits de Massacre à la tronçonneuse, parce qu'il y a quand même cet objet, la tronçonneuse, qui a été choisi par Toby Hooper, parce que ça faisait du bruit, hein, surtout. C'était ça, hein, son idée.
Et pour faire des économies, oui, par voilà, rapport oui. à la musique, il s'en cache pas. S'il a choisi la tronçonneuse, c'est parce qu'il y a un bruit quand même vachement strident qui voilà, dans l'ambiance du film, a son importance. Et pour faire des économies sur son budget, quoi. Et ça marche, il me semble, puisque s'il y avait eu de la musique, ça serait peut-être différent. Alors, il y a une musique de fond qui sert le cadre texan, la musique, banjo et compagnie.
Il y a toujours la radio.
Il y a toujours la radio, pareil que dans Le Crocodile de la Mort. Quoi. C'est des films qui sont vachement ressemblants. Et donc, la tronçonneuse lui a permis de faire de sacrées économies sur la BO, puisqu'il n'y a pas de BO presque.
Alors, on va non pas écouter la tronçonneuse d'ailleurs, mais on va écouter autre chose.
Vous m'entendez ? Pam, viens voir. Hello.
Thank you.
Voilà, donc l'ambiance du film, là, c'est intéressant même de l'écouter à la radio, parce que les auditeurs ne peuvent pas savoir exactement qu'est-ce qui se passe.
Une touche musicale minimaliste, hein, quand même.
Très, très minimaliste. Et quand même, bah, on sent on entend. Enfin, j'espère que les auditeurs l'ont entendu, mais le sang de la viande hein, qui gicle un peu. Voilà. Mais c'est peut-être aussi pour ça que ça peut être dérangeant par moment, Massacre à la tronçonneuse ou pas.
Oui, en partie quand même. Enfin, c'est pas un film gore, par contre, malgré ce qu'on puisse imaginer, je sais pas pour quelle raison, beaucoup de gens, c'est pas un film où il y a une seule image gore. Évidemment, on va trouver le contre-exemple, il y a un petit peu de sang, mais c'est pas un film gore, quoi. À chaque fois, il essaie de, comme a fait Hitchcock dans Psychose, bon, différemment, mais il contourne la censure.
Il y a beaucoup de hors-champ.
Voilà.
Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, les Italiens sont quand même beaucoup plus explicites dans la façon de filmer, ce qui est théoriquement immontrable.
Ouais. D'ailleurs, du coup, c'est pour ça que quand il sort en 82, les mecs ont l'habitude, c'est-à-dire nous, il y a 30 ans, on a l'habitude de voir des films de zombies, des films ultra-gore, bon, qui sont coupés aussi en France, mais quand même, Zombie de Romero, c'est quand même beaucoup plus gore que Massacre à tronçonneuse. Alors évidemment, quand sort Massacre à tronçonneuse en 82, les gens se sont attendus au truc, au film le plus gore de l'histoire du cinéma, et non, forcément, ça marche pas. Hein. Voilà.
Parce que on vient de perdre 150 spectateurs là.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le genre fonctionne un peu comme ça, hein, c'est-à-dire que au tout début, il y a une espèce de vacuité comme ça. Hein, on fait connaissance avec des personnages. On est dans ce grand Texas et finalement, on s'aperçoit que les personnages se resserrent petit à petit malgré ce grand espace. Et puis à un moment, à peu près à la moitié du film, hein, c'est là que ça bascule. C'est le genre qui veut ça. Hein. Enfin, il faut installer une espèce de petit climat pour ensuite bien complètement le faire basculer.
Oui, c'est un peu le début du slasher aussi. Quoi. C'est... Pas uniquement, hein, mais on peut y pressentir quelque chose de ce goût-là. Quoi.
C'est ça, c'est comment faire un film avec une ambiance et pas de scénario, en fait. un décor, une ambiance et pas de scénario. Juste pour revenir là, sur le coup de la tronçonneuse dont vous parliez tout à l'heure, parce que c'est, quand on dit qu'il est à l'origine de beaucoup de motifs, Massacre à la tronçonneuse, mais je pense qu'il est aussi à l'origine de celui-là, c'est qu'à partir, me semble-t-il, hein, de Massacre à la tronçonneuse, il va y avoir comme ça une escalade dans l'imaginaire des réalisateurs pour aller chercher les objets les plus improbables pour flinguer du mort-vivant, pour flinguer... Et je pense à ça, vous avez parlé de macheter tout à l'heure, on arrive au meurtre à la débroussailleuse, enfin, ça devient absolument n'importe quoi. mais je pense que c'est directement, enfin, à ma connaissance en tout cas, si, à part chez Hitchcock, où on se flingue avec des paires de ciseaux, mais sinon...
Je pense pas, parce que il y a eu beaucoup de films, notamment en Angleterre, dans les années 60, alors je pense Crime au musée des horreurs, par exemple, où déjà, on a le film qui repose un peu sur cette espèce d'invention. Alors, il y a une scène très célèbre où une nana regarde dans des jumelles qu'on lui a offertes, et deux lames sortent et lui... plante les... Enfin, lui rentre dans le cerveau.
Il y a le voyeur de Michael Powell aussi. Où là, c'est carrément une caméra qui tue.
Non, mais là, on était sur de l'objet de jardinage.
Directement
quotidien. On est sur le quotidien. Je pense que Trauma qui avait fait un film qui s'appelait Panique sur le Green avec une tondeuse à gazon tueuse.
Brain Dead, il y a une scène aussi.
Sur ces motifs-là, on va dans le garage, on pense qu'il me tombe sous la main. Oh, chouette, une tronçonneuse.
Voilà. Et c'est ça, à chaque fois qu'il faisait la nouveauté, donc... De ce genre, c'est-à-dire on va toujours plus loin. Mais
sauf
toujours
qu'on ne pouvait pas réutiliser toujours la tronçonneuse.
Top Hopper lui-même, il a fait un film plus tard, La Presseuse Diabolique, où c'était carrément une repasseuse plieuse hantée qui écrasait les gens.
De marque suédoise.
Ouais. Wow.
C'était une Altra, non, peut-être.
Je sais pas.
Ah, oui.
The Mangler. Je sais plus quand ça date.
Alors donc, on parlait de Massacre à la tronçonneuse de Top Hopper, donc qui inaugurera l'absurde séance. Ce sera demain, jeudi 9 décembre à 20h30 à l'Utopia. Utopia qui accueille l'absurde séance, qui est une sorte de marque déposée, on peut le dire comme ça.
Oui, non. Alors nous, en gros, on a repris le nom, mais on est tout à fait indépendant de ce qui peut se faire ailleurs. Alors évidemment, il y aura des choses communes. Massacre à tronçonneuse, c'est un film qui est un peu commun à, je pense, à tout le monde.
Tout le monde, ça veut dire qu'en gros, l'absurde séance, ça c'est né à Nantes. Hein. C'est y a un projectionniste fou dans un cinéma à Nantes.
Un
ouvreur.
Donc au 14A à Nantes.
Au 14A à Nantes, voilà, qui a lancé ça ça doit faire bien 10 ans.
Il y a 10 ans.
Voilà. Et il a réinventé la possibilité d'exploiter du cinéma bis en France, d'aller chercher des
films en même temps que les séances bis de la Cinémathèque.
Voilà. Et à la même période. Visiblement, ça a pris, ça a plu, ça n'a pas non plus un développement énorme. Je pense qu'il doit y avoir 3 salles de cinéma en France, 4 salles de cinéma en France qui ont repris l'appellation Absurde Séance. Et si à Utopia, on a aussi repris cette appellation, c'est plus parce que ça avait une grosse importance pour notre partenaire principal, qui est l'association Cinachenko, c'est Adrien ici présent. Et puis parce que c'est vrai que ça marque un petit peu, moi, sur le concept, c'est un petit... Enfin, aller chercher... une appellation autre finalement qui aurait recouvert à peu près les mêmes objectifs de programmation, c'était pas nécessaire. Et voilà, mais c'est plus une façon de, c'est une carte de visite, quoi, de dire on va jouer à peu près ça.
Alors, Absurde Séance qui interviendra au fil de la programmation de l'année, mais jamais au même moment, enfin, c'est-à-dire que c'est pas encore figé.
Ça serait dans l'idée, c'est de faire à peu près un truc par gazette, un événement par gazette. Bon, ça
mensuel,
peut
mensuel plus ou moins.
Voilà, ça serait une séance mensuelle à peu près, quoi. Ça peut être en début de mois, en fin de mois. On verra en fonction du moment où on peut. Mais à peu près quelque chose de mensuel, voilà.
En tout cas, vous serez les bienvenus pour venir en parler au micro de Divergence dans l'émission Cinérama. On va vous laisser, enfin peut-être écouter. La chronique de Machete.
Oui, on va rester dans la série B, le bis, tout ça avec Machete. En fait, ça faisait 3 ans qu'on en parlait. Il l'a fait finalement. Robert Rodriguez a tourné Machete. Alors, on connaissait les adaptations de romans, de pièces de théâtre, d'opéra, de jeux vidéo, de bandes dessinées, de feuilletons télé, de parcs d'attractions avec la franchise Pirates des Caraïbes et même de jouets pour enfants avec les chefs-d'œuvre Transformers et G.I. Joe et les dessins animés Barbie. Mais mercredi dernier est sortie en salle la première adaptation de tous les temps d'une bande-annonce orpheline, une bande-annonce qui faisait la pub pour un film qui n'était ni tourné ni même en projet. Alors souvenez-vous, il y a 3 ans, 2 réalisateurs accouchaient d'une idée jubilatoire, réaliser une grande déclaration d'amour au cinéma d'exploitation qui a bercé leur jeunesse et qui leur a donné envie de faire ce métier. Le titre « Grindhouse », en référence aux salles de cinéma américaines spécialisées dans ce type de film. Et le projet a pris la forme d'un double programme agrémenté de bandes-annonces, le tout dans un esprit potache et décomplexé. Alors Grindhouse comprend 2 films, Boulevard de la Mort, réalisé par Quentin Tarantino, et Planète Terror, réalisé par Robert Rodriguez. Et pour compléter ce joli diptyque, les 2 copains ont fait appel au talent de plusieurs de leurs connaissances pour qu'ils réalisent des bandes-annonces de films imaginaires, intercalés entre les 2 longs-métrages. Donc Eli Roth, Edgar Wright, Rob Zombie et Robert Rodriguez lui-même réalisent 4 petites perles qui ajoutent à la saveur de l'ensemble. Eli Roth propose quelques images de Thanksgiving, un slasher dans lequel un tueur en série décime la population pendant la célèbre fête nationale américaine. On n'est plus dans le meurtre avec un objet particulier, mais le meurtre pendant un moment particulier, voilà, les Noël sanglants, etc. Donc Halloween de Carpenter, bien sûr. Ensuite, on a Edgar Wright qui signe Don't, une annonce d'un film de maison hantée façon Hammer. Et Rob Zombie, un des descendants de Tobe Hooper et sans doute très influencé par son massacre à la tronçonneuse. Eh bien, Rob Zombie, toujours aussi excessif, nous emmène faire un tour dans l'Allemagne nazie avec Werewolf Woman of the SS, donc les femmes loups-garous des SS en français, un beau bordel qui mélange film de loups-garous, film de femmes en cage et film de nazis, avec Nicolas Cage qui fait une apparition éclair dans le rôle du mythique Fu Manchu, le génie du mal asiatique qui orchestre ce programme de super guerrières loups-garous. Quant à Rodriguez, voilà ce qu'il nous propose.
On l'appelle la machette.
Je prends $70 pour le désherbage, 100 pour les travaux de toiture.
Allons-y.
Et $125 pour les fosses septiques. Les eaux usées.
Avez-vous déjà tué des gens auparavant? Comme vous le savez peut-être, les étrangers sans papier tels que vous font l'objet de reconduites à la frontière à un rythme inquiétant. Pour le bien de nos 2 peuples, nous allons devoir éliminer le sénateur. Pour ce travail, vous recevrez de l'argent. $150 000 en liquide.
On lui propose un marché qu'il ne peut pas refuser. Je suis cher. Parce que je suis le meilleur. On l'a trahi. Il s'est fait doubler. Il était laissé pour mort.
J'ai prêté serment en faveur de la paix. Et aujourd'hui, tu me demandes si je peux t'aider à tuer tes semblables.
Oui, vieux. Pardon, oui, mon père.
Je vais voir ce que je peux faire.
Il s'y connaît en l'âme.
Où sont ma femme et ma fille?
Il emballe comme il veut. Et il tue les méchants.
Non, merde.
Vous êtes en train de me dire que cet ouvrier mexicain est un putain d'agent fédéral?
Ils vont bientôt se rendre compte...
Ce Mexicain peut nous cueillir.
Ils ont fait une grosse connerie en s'adressant à ce Mexicain. De l'action. Du suspense.
Oh non, non.
De l'émotion.
Je vous en prie, mon père, ayez pitié.
Le Seigneur a de la pitié, moi non.
Si vous projetez d'engager la machette pour tuer un méchant, faites bien attention que le méchant... Ce ne soit pas vous. La machette. Interdit aux mineurs.
Voilà, dans la grande tradition des bandes-annonces qui racontent tout le film, c'est peut-être la première fois qu'on propose un court-métrage en entier en diffusion dans Cinérama. Alors malheureusement, en 2007, le monde n'était pas prêt et le projet Grindhouse fait un joli flop aux États-Unis. Pour l'exploitation internationale, les distributeurs décident de sacrifier la cohérence du projet pour booster la rentabilité. En France, on a par exemple eu droit aux deux longs-métrages distribués séparément, donc deux films, deux places. En version longue également, et seule la fausse bande-annonce signée Rodriguez, donc Machete, collée avant chaque copie de Planète Terror, a eu l'honneur de franchir la douane. Il a fallu attendre les éditions DVD pour découvrir les autres. Alors quand je disais que ce film n'était pas en projet en 2007, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, l'histoire de Machete germe dans l'esprit passablement abîmé par la tequila de Robert Rodriguez dès 1995. Après avoir offert plusieurs seconds rôles au comédien Danny Trejo, avec qui il vient de tourner Desperado, Rodriguez décide qu'il est temps de donner au Mexicain buriné et tatoué un vrai premier rôle. Il rédige pour lui une histoire de policier mexicain, plutôt habile de ses mains quand il s'agit de dézinguer des méchants, une sorte de super flic latino, adepte des armes blanches et en particulier de la machette qui lui donne son nom. Mais le film ne voit pas le jour tout de suite, puisque Rodriguez se consacre rapidement à tout un tas de projets, dont la série des Spy Kids. Mais bon, ça n'empêche pas Danny Trejo de s'entraîner à incarner des personnages au nom évocateur. Alors Navajas, qui veut dire long couteau en espagnol dans Desperado, Razor Eddie dans Une nuit en enfer et ses suites, Machete déjà dans la série des Spy Kids, et enfin Cuchillo dans le récent Predators, produit par Rodriguez. Et il faut attendre 2007 et le projet Grindhouse pour que Danny Trejo chausse pour la première fois les bottes du véritable Machete dans la fausse bande-annonce éponyme. Et comme le personnage marque les esprits, un long métrage est finalement mis en chantier. Les rumeurs vont bon train, le film est prévu pour sortir directement en DVD et finalement il sort en salle. Il faut dire qu'en 3 ans, le budget et le casting ont eu le temps de s'étoffer.
Robert Rodriguez presents Danny Trejo, Steven Seagal, Michelle Rodriguez, Lindsay Lohan, introducing Don Johnson with Jessica Alba and Robert De Niro.
Alors la fausse bande-annonce de 2007 était assez fidèle au film dont elle faisait la promotion. Les quelques images choisies par Rodriguez annonçaient un mauvais film d'action mexicain, violent et sexy, avec des personnages charismatiques, et c'est exactement ce qu'il nous propose aujourd'hui. Le scénario est fidèle aux éléments dévoilés il y a 3 ans, on retrouve d'ailleurs la plupart des plans présents dans la bande-annonce, même si certains ont été retournés avec de nouveaux acteurs, la plupart ont été conservés. Et dans l'ensemble, il faut saluer la cohérence que Rodriguez a su tisser entre son film et son matériau d'origine. La bande-annonce était hilarante dans le contexte Grindhouse parce qu'elle annonçait une série B fauchée au scénario indigent. Et en passant au long métrage, Rodriguez a vraiment mis le paquet dans ce traitement série B des années 70 tiré par les cheveux, avec en prime un casting d'enfer qui prouve encore une fois que beaucoup de monde se presse au portillon quand il s'agit de travailler avec ce réalisateur. Alors l'introduction des personnages respecte brillamment les pires poncifs. Notre bon Machette est un policier incorruptible et tenace qui, au péril de sa vie, vole au secours des innocentes, nues de préférence, et fait autant de ravages dans les rangs des salauds qu'une sainte grenade en ferait dans un bistrot rempli de païens. Danny Trejo est monolithique et il s'en donne à cœur joie, les cadavres s'empilent. Les méchants de leur côté sont eux aussi de belles caricatures, tous sont introduits comme il se doit par un acte de cruauté non négligeable. Le narcotrafiquant Torres, campé par un Steven Seagal un peu flasque, John McLaughlin, le sénateur raciste joué par De Niro, son aide-de-camp vicieux, le militaire texan fasciste, tous sont de véritables ordures. Et quant à ces dames, si elles ne sont pas nues, ivres-mortes, en train de batifoler dans la piscine ou déguisées en infirmières, eh bien elles brandissent des calibres plus grands qu'elles. Et le reste du film est à l'avenant, le héros se tire des situations les plus improbables sans sourciller, les jolies filles craquent toutes pour sa machette, et les méchants sont tous plus incompétents les uns que les autres. Donc voilà, le film enfile les poncifs comme des perles pour le plus grand plaisir des initiés. Mais petit bémol, si la bande-annonce de Machete fonctionnait de façon presque miraculeuse grâce à son format court et à la liberté qu'elle laissait aux spectateurs d'imaginer leur propre film, le long métrage ne déclenche plus la même jubilation. En choisissant de faire un film de 1h45, Rodriguez sacrifie un peu son concept et développe un scénario trop construit et trop parodique pour être vraiment mauvais. Il parvient la plupart du temps à injecter ce qu'il faut de folie et d'outrance dans les séquences pour qu'on s'ennuie pas, mais Machete aurait sans doute gagné à être plus court, monté peut-être de façon un peu plus anarchique, comme s'il était passé entre les mains de producteurs frileux qui auraient charcuté le cut du réalisateur pour ne conserver que les séquences d'action, les scènes violentes ou érotiques, au mépris de la continuité. Je pensais pas dire ça un jour. Donc à mon goût, Rodriguez n'a pas réussi à tirer suffisamment son film vers le nanar incohérent et fauché. Le second degré qu'on trouvait dans la bande-annonce est remplacé par un humour plus volontaire. Et les personnages qui n'avaient pas le temps d'être ridicules en 3 minutes ont maintenant largement le temps d'être tournés en dérision. Alors au sein d'un autre projet, Grindhouse, ce film aurait plus facilement trouvé sa place, pourquoi pas en double programme, avec un autre film comme Hobo with a Shotgun, un film qui est prévu pour 2011 avec Rutger Hauer et qui est tiré lui aussi d'une fausse bande-annonce qui avait gagné le concours lancé en 2007 par Tarantino et Rodriguez. Voilà, donc en tout cas, Rodriguez ne manque pas d'annoncer de suite à son film avec un dernier clin d'œil plutôt réussi. Et voilà, Machete, c'est un film sympa que je vous recommande à voir quand même avec une bouteille de tequila dans chaque main de préférence.
Il faudra se rendre au Gaumont hein, en version originale.
Pour le voir en version originale, oui. Ouais, ouais. Bah, j'ai passé la bande-annonce en français, mais c'est vrai que je vous conseille de toute façon la bande originale. Les voix sont plus graves, plus caricaturales encore que celles qu'on a pu entendre.
Que pour le doublage, oui. Adrien, tu l'as vu, juste quelques mots sur Machete ?
Moi j'ai adoré, hein, je suis fan absolu. À mon sens, j'ai trouvé que c'était le meilleur Rodriguez, donc aux côtés de deux, trois autres quand même. Alors Planète Terreur évidemment, Une Nuit en Enfer. Il y aurait beaucoup de choses à dire là en 3 minutes, ça va être quand même compliqué. Mais
tu as 3 minutes.
J'ai 3 minutes.
Quoi qu'il arrive.
C'est un film qui à la fois colle avec son temps, c'est-à-dire qu'il va utiliser des effets spéciaux numériques assez vilains qui dans un autre film ne passeraient pas du tout. Là je trouve que ça passe plutôt bien. Après il y a l'aspect vraiment le film peut être taxé d'hypocrite dans le sens où il rend hommage à un cinéma fauché alors que lui n'est pas fauché et donc évidemment il y a des trucs qui sont incohérents, mais je trouve que au final c'est un film tout à fait décomplexé. Comme a pu l'être Piranha, hein. C'est un peu le même genre de film, il me semble. Piranha 3D, donc d'Alexandre Aja, que je mets à peu près dans le même courant. Je sais pas, peut-être que c'est pas.
C'est
la...
vrai, ces films qui rendent hommage un peu au cinéma d'exploitation.
Voilà. C'est du vrai faux, quoi.
Voilà, il y a ce côté hypocrite quand même qui rend hommage donc un peu à la française, j'ai envie de dire, avec un côté. Presque Nouvelle Vague, tout ça qui vient peut-être de Tarantino, plus on l'a vu dans le projet Grindhouse, où lui son film était moins bourrin que celui de Rodriguez, était moins fun aussi et moins plaisant. Et en même temps, voilà, les films d'exploitation, c'était des films pour faire du fric. Et avec Machete, on se retrouve devant un produit qui aurait dû sortir directement en DVD, parce qu'il n'a pas vraiment la place dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, un mauvais film d'action, aujourd'hui, on ne paye plus 9,70€ pour aller voir un film tourné rapidement, comme ça, sans scénario, comme on en faisait dans les années 60-70, même beaucoup plus tôt dans les années 30.
Où on en voyait deux.
Voilà, qui était en programme, c'est ça, les salles de cinéma proposaient des passes pour 6 films d'un coup sur toute la nuit, dans les grindhouse, justement, les vieilles salles de ciné spécialisées. Donc il y a ce côté un peu ambigu entre ben, l'hommage sympathique à cette cinématographie, et puis le côté, on fait du fric aussi, avec, ben, on a proposé une fausse bande-annonce, ce qui a plu, donc on a pu développer le projet, donc on fait un film à partir de là. C'est le côté un petit peu magouilleur de Rodriguez qui ressort là.
D'ailleurs, ça marche pas vraiment, il me semble. Moi, je suis allé le voir le jour de la sortie, donc au Gaumont en VO, on était 7, quoi. Il l'avait mis dans la plus petite salle. Je suis pas sûr que ça marche.
Enfin, eh oui, eh oui.
C'est un bon flop, même. Ouais. Juste un petit truc, moi je suis assez rassuré de ce que j'ai entendu tout à l'heure, si effectivement ça a été remonté et revu par les producteurs, puisque c'est la première fois que je m'endors pas devant un film de Rodriguez en fait, ou que je quitte pas la salle. Je trouvais que celui-là était étonnamment bien écrit, étonnamment bien construit. Il y a une vraie construction, une vraie construction dramatique avec des vrais personnages qui ont le temps d'exister, ce qui n'existe jamais dans ces films. Moi je pense vraiment que c'est le meilleur film de Rodriguez aussi, et ça me rassure de savoir que c'est pas de sa faute. Enfin
non, mais en fait ce que je disais, c'est que moi j'aurais aimé que des producteurs voilà indélicats taillent dans le vif pour justement peut-être supprimer ce côté caractérisation des personnages dont finalement on se fout, parce que
ça lui fait du bien, si tu veux, d'un certain point de vue, parce que le meilleur hommage au film de Bloxploitation qui a été réalisé, c'était Jackie Brown par Tarantino, qui était un film hyper travaillé, qui avait une construction, une écriture cérébrale, au cordeau. Et je suis pas convaincu que refaire du nanar en tourner comme un nanar, ce soit aujourd'hui palpitant, quoi, de refaire à l'identique des trucs qu'on a plus vite fait d'aller choper. On va chez, je sais pas, au Troc de Lille trouver des vieilles VHS. Et si on les trouve,
les films sont devenus rares. Ouais.
Enfin bref, voilà, moi le Rodriguez, pareil, allez-y, c'est peut-être son film le plus surprenant. Voilà.
Plus jubilatoire.
Voilà, et donc c'est un directeur de l'Utopia qui empêche tous les spectateurs à aller au Gaumont dans la petite salle.
Non, je ne suis pas là. Alors pour se quitter, en finir avec ce sujet, je vous propose d'écouter, alors pas un extrait de la bande originale de Machete, mais un extrait de peut-être son meilleur film, en mon sens, un petit extrait de Planète Terror. We'll be right back.
Nous parlions de Machete dans Cinérama, et puis auparavant, eh bien, on a parlé de Massacre à la tronçonneuse, qui sera projeté donc demain à l'Utopia à 20h30 pour l'absurde séance. Alors il se trouve que maintenant, je suis tout seul dans l'émission, tout le monde m'a quitté pour eh bien, vaquer à leurs occupations. Alors je vais parler eh bien, d'un nouveau film de monstres sans zombies et tourné avec les mêmes moyens, c'est-à-dire pas grand-chose. On parle de 200 000 dollars pour ce film, alors c'est toujours bon à prendre. De quoi s'agit-il ? De Monsters de Gareth Edwards. Écoutons l'ambiance.
Mais c'est quoi ça ?
L'armée Hamas est...
Créature repérée. Et extraterrestre.
On l'a appelé bombe chimique.
Tout est bouclé.
Il nous emmène dans la zone affectée.
C'est votre seule possibilité.
Alors on ne peut pas dire que les producteurs se soient embarrassés avec le titre, hein. C'est presque un titre générique, Monster, soit monstre dans le monde de la francophonie. Alors avec un titre pareil, on espère en avoir plein les mirettes, mais non, il s'agit avant tout d'un film de science-fiction catastrophe. Et quand on n'a pas le sou, on ne se lance pas dans des effets spéciaux dispendieux ou dans des séances de maquillage à n'en plus finir, on fait simple. Alors résumons vite fait, bien fait, le point de départ de Monster. La NASA a envoyé une sonde dans l'espace à la rencontre de formes de vie extraterrestres. Ça fonctionne tellement bien que la sonde est envahie d'organismes venant d'ailleurs et qu'elle retombe au Mexique, libérant ses passagers qui s'éparpillent dans la nature. Alors de petits, les exo-organismes deviennent grands et sèment la terreur sur un périmètre assez large, mais qui s'arrête, pense-t-on, à la frontière des États-Unis. C'est l'espace de contamination, donc du côté mexicain. Alors si on voit assez vite les ravages que créent les monstres venus de l'espace, eh bien tout de suite après on fait connaissance avec le cœur du film, soit une relation entre un reporter photographe, Andrew, et une jeune femme, Samantha, qui se trouve être la fille du patron du journal auquel collabore Andrew. Alors celui-ci est sommé par son patron d'escorter la belle blonde toute fragile jusqu'aux États-Unis. Mais le retour, alors possible par des voies dégagées, deviendra vite impossible. Aussi, le couple va s'engager dans la zone infectée et interdite. Alors tremblez, spectateurs, car c'est la jungle, on y parle espagnol, et il y a ici et là des carcasses de F-16, la menace d'un gaz toxique répandu par l'armée américaine pour tuer les vilaines bestioles. Et il y a tout de même eh bien, les bestioles en question qu'on finira par entreapercevoir avant de les voir tout à fait à la fin du film. Alors Monster se transforme en road movie en temps de guerre avec une possible histoire d'amour à la clé. Les monstres ne sont jamais loin et petit à petit le réalisateur nous prépare à les voir vraiment. Mais c'est là sans doute la faiblesse de Monster. Les bestioles qu'on voit à l'écran genre gastéropodes luminescents ne sont pas vraiment convaincantes. Il aurait pu faire l'économie de cette vision et nous laisser imaginer quelle créature pouvait créer tant de désastres, puisqu'à force de créer l'attente, on est quelque peu déçu par ce qu'on découvre. Puisque finalement, comme beaucoup de fictions sur les monstres, pour peu que ça ne soit pas dans la veine de Independence Day, hein, où les envahisseurs sont carrément méchants mais sans raison, la thématique du monstre renvoie au monstre qui est en nous. Et il arrive souvent que celui qu'on croyait être le monstre n'est en fait qu'une victime de l'homme. C'est ce qui est à l'œuvre dans Monster. Le monstre devient le symbole de l'étranger qu'on veut à tout prix isoler en construisant un immense mur entre le Mexique et les États-Unis, par exemple. Le film se nourrit de sentiments humanistes, de sorte qu'on ne sait plus si les Mexicains qui veulent quitter leur pays et accompagnent ce couple d'Américains le font pour fuir la misère ou les extraterrestres. Le réalisateur ne déroge pas à la règle du genre, donc les monstres sont bien le prétexte à parler de notre monde globalisé, mais très vite xénophobe, des relations d'argent entre les riches Américains et les pauvres Mexicains ou des murs qu'on érige pour contrer une probable menace. Alors on peut quand même dire que Monster, vu le prix qu'il a coûté, hein, reste une réussite pour son climat notamment. Pendant un long moment, il s'agit juste, de s'imprégner d'une atmosphère. Après, on pourra se demander pourquoi le réalisateur fait débouler les monstres pour enfoncer le clou et nous donner une leçon de vie, car ces monstres, en fait, vivent aussi comme le couple qui se retrouve dans la galère. Ils vivent d'amour. Alors, conclusion un peu naïve, car l'amour ne résout pas tout, bien loin de là. Alors, Monster, film fauché de science-fiction. Alors, je ne sais pas s'il a des spectateurs. En tout cas, il est encore projeté au Gaumont Multiplex. Un autre film projeté au Gaumont Multiplex, c'est La Journée du Gaumont aujourd'hui et un peu de l'Utopia. C'est À bout portant, réalisé par Fred Cavaillé. Alors, c'est la bonne surprise de cette fin d'année qui mêle Monsieur Tout-le-Monde, Truand, Implacable et Guerre des flics. Le ressort scénaristique est assez simple et on va l'entendre. On commencera par cette scène dans un intérieur parisien. Samuel, un aide-soignant, est aux petits soins avec sa femme qui attend un bébé.
Je vais t'installer la télé dans la chambre, tu vas voir, tu vas être comme une princesse.
Hey, tu fais quoi là, Nadia?
Non, pose-moi ces bouquins, je vais m'occuper des cartons. Viens t'asseoir. Tu devrais être au lit, tu vois.
Je veux pas rester à moi, Opio.
Opio? Bah si, tu vas rester à moi allongé. Mm-hmm.
Ah. Et alors, si c'est allongé?
Attends, arrête, qu'est-ce que tu fais là-haut? Oh, oui. Attention.
J'ai envie de toi.
Mais non, c'est pas possible, ça. Pas l'honneur de question. Pousse-toi bien, voilà. Écoute pas ta mère, elle est folle.
Faut m'embrasser quand même.
Voilà, donc ça batifole, ça s'embrasse. Et on prend une autre scène, c'est pas la même ambiance. L'aide-soignant est à terre et se réveille après avoir pris un sérieux coup sur la tête.
Allô? Pourquoi tu pleures, mon amour? Qu'est-ce qui se passe?
Hein, t'es... Qu'est-ce que t'as fait, Samuel?
J'ai rien fait, mon cœur. T'es où, là?
Maintenant, tu fermes ta gueule et tu m'écoutes.
Attends, t'es qui, toi? C'est toi qui fermes ta gueule! Elle est où, ma femme? Hein? Non! Arrête! Nadia!
Maintenant, tu te dis, sinon la prochaine, elle est pour elle.
D'accord.
Le mec qu'on a essayé de tuer hier soir, tu vas le faire sortir.
Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on...
Tu poses pas de questions. Je t'ai laissé un téléphone sur la table. Si quand je te rappelle à midi, il est pas dehors avec toi, ta femme est morte. Même chose si tu préviens les flics. Alors si tu veux la revoir vivante, tu sais quoi faire.
D'accord.
T'as 3 heures.
D'accord, la touche, j'ai pas, je vous en prie, à l'enceinte. Hé hey.
C'est donc l'histoire d'un homme, on va dire Monsieur Tout-le-Monde, interprété par Gilles Lelouch, qui met les pieds et la tête dans une machination parce qu'il a le malheur d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, alors qu'il ne cherche qu'à exercer tranquillement son boulot d'aide-soignant dans un hôpital qui accueille un accidenté de la route un peu particulier et plutôt mal en point, interprété par Roche Dizem. Alors il faut dire que l'accident n'était pas des plus faciles à encaisser, il faudrait être un très bon cascadeur pour espérer s'en sortir avec au mieux un semi-coma. Mais bon, c'est du cinéma et À bout portant est un divertissement plutôt bien fait et efficace, justement parce que Fred Cavaillé n'en rajoute pas des tonnes dans la mise en scène, pas de plan à profusion, on a de maigres dialogues et du suspense. Alors le réalisateur assume son cinéma de divertissement et c'est parce qu'il l'assume avec l'amour du travail bien fait qu'on n'a pas là une recette bien fade et clinquante à la Besson. Il parvient à créer une tension et un suspense qui me contraint d'ailleurs à ne pas en révéler davantage. Alors, on regrettera peut-être le jeu forcé de Mireille Perrier et de Gérard Lanvin qui jouent deux flics en plein conflit, qui tirent une tête de 2 km, que la lumière froide n'aide pas à rendre très sympathique. Quant à Roche Dizem, le méchant, le malfrat, le vilain, il s'en sort très bien. On le sent téléporté de GoFast, mais cette fois-ci, il a changé d'habit. Ça n'est plus un flic infiltré et vengeur en berline de luxe, mais un voyou pris dans une machination qui l'oppose à la police, et c'est de belle manière d'ailleurs qu'il tentera de faire tourner en bourrique les commissariats de Paris. Alors pour ceux qui apprécient les films policiers qui ne laissent aucun répit, avec flics, voyous, courses-poursuites saupoudrées de sentiments, À bout portant ravira. Et puis emballé en moins d'1h30, on ne peut pas dire qu'il y a des longueurs, non, c'est sec et c'est bien envoyé. Donc À bout portant, réalisé par Fred Cavaillé avec Gilles Lelouch, Roche Dizem, Gérard Lanvin, Mireille Perrier et quelques autres, forcément, c'est au Gaumont Multiplex. On en a presque terminé avec l'émission Cinérama. Je vais vous donner les événements, pas mal d'événements quand même. Alors mercredi 8 décembre, c'est ce soir, c'est à 20h20, c'est au Diagonale, c'est Il y a longtemps que je t'aime de Philippe Claudel en présence du réalisateur. Demain, au Ciné-Club Jean Vigo de Montpellier, salle Rabelais, dans le cadre de la programmation Film Noir, Les Amants de la Nuit, de Nicolas Rey. Le Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier présente en collaboration avec la médiathèque Federico Fellini La cuisine en héritage. C'est un film documentaire de Mounia Médourgence en présence de la réalisatrice. Alors, ce film met en lumière le travail de recueil et de transmission du savoir-faire culinaire à travers le quotidien de mère de famille au Maroc, ce qui n'a rien à voir avec Massacre à la tronçonneuse dont on a parlé en début d'émission, qui lui sera projeté à 20h30 au cinéma Utopia. Demain aussi, donc, vendredi 10 décembre à Alès, le cinéma Les Arcades propose une soirée rencontre à 20h30 autour du film Fin de concession de Pierre Carl en sa présence. Si vous allez du côté de Agde, c'est le cinéma Le Travelling qui propose une soirée ciné plus à 21h autour du film d'Anne Lincel et de Rainer Hoffmann, Les rêves dansants sur les pas de Pina Bausch, qui est aussi projeté au cinéma Utopia à Montpellier. Et puis, si on parle du vendredi 10 décembre à Béziers, eh bien, le Ciné-Club propose Les Bureaux de Dieu de Claire Simon au cinéma Le Palace à 20h15. Ensuite, eh bien, on passe au lundi 13 décembre à 13h50 au Diagonale de Parti, l'excellent film de Black Edwards de 69 avec Peter Sellers. Le lundi 13, toujours, mais cette fois-ci à 18h, c'est Fading de Olivier Zaba dans le cadre des soirées Flair. C'est un tarif unique à 2€. Et donc, les soirées Flair mettent en lumière les formes contemporaines de l'image en mouvement qui troublent les frontières entre art contemporain et cinéma. Mardi 14 décembre à 19h30, c'est Plein Écran, cette fois-ci, avec le film des frères Taviani, Good Morning Babylonia. Ce sera au cinéma Diagonale. Et puis eh bien, une grosse avant-première, ce sera mardi 14 décembre à Nîmes, le cinéma Le Sémaphore propose à 20h30 une projection en avant-première du dernier film de Mike Lee. Film de Mike Lee d'ailleurs, qui fait référence à l'émission Cinérama, puisque la musique qu'on entend derrière moi et qui fait le générique de Cinérama est issue d'un excellent film de Mike Lee. Et donc là, ce sera son dernier film, Another Year, et c'est présenté par les écrans britanniques, festival de cinéma britannique qui a lieu au printemps. Cinérama s'achève. À la fin de ce générique, vous pourrez écouter un petit extrait de The Party, donc de Black Edwards, qui passera lundi prochain au Diagonale. Et puis, eh bien, il me reste à remercier Bruno, qui était à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Comme j'en ai jamais terminé, je voulais juste m'excuser, car par rapport au sommaire, on avait annoncé une interview de Pierre Salvadori, mais vous l'écouterez la semaine prochaine, Pierre Salvadori avec Audrey Tautou et Nathalie Baye.
Non, coupez !
Monsieur Bakshi.
Oui, monsieur.
Est-ce que vous savez que ce film se déroule pendant l'année 1878 ?
Oui, je suis prévenu, oui, je sais. Oui, ce film se passe en 78.
Monsieur Bakshi, savez-vous également qu'à cette date, en 1878, on ne portait pas encore de montre de plongée ?
Ah oui, ça, je le sais aussi. Vous ne les avez pas encore inventé, n'est-ce pas ?
Et quelle heure est-il ?
Attendez, il... Oh, bon sang.
Ça va, déjeuner tout le monde.
Cinérama.
Déjeuner, 40 minutes pour l'équipe technique, 1 heure pour les acteurs.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Non, c'est le 14. Non,
le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
Les pompiers, c'est le 18. Alors, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.